Touche après touche, région après région, se dessine un monde en transformation dans lequel les contemporains ont bien plus le sentiment de vivre la fin d'une époque, celle que les historiens appellent désormais l'Antiquité tardive. Extrait de l'introduction du livre de Sylvain de Stéphane, La fin de l'Antiquité, 542.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Les historiens ont eu l'habitude, depuis déjà fort longtemps, de partager l'histoire en quatre périodes. L'Antiquité, le Moyen-Âge, la période moderne et la période contemporaine. Mais depuis quelque temps, il y a, à vrai dire, un débat sur la pertinence des ruptures choisies. Par exemple, plus personne ne pense que la chute de Constantinople en 1453 marque vraiment la rupture entre la période médiévale et le début de la période moderne. On estime que c'est plutôt les grandes découvertes, le développement de l'imprimerie, les grands et nouveaux courants commerciaux qui font qu'il y a une modernité qui va peut-être apparaître. Et encore, le terme modernité a été contesté par certains médiévistes. Quant à l'Antiquité, il y avait une date pratique, c'était 476. 476 correspond à la déposition de Romulus Augustule, le dernier empereur d'Occident. Et on estimait qu'après, eh bien, on rentrait dans le Haut Moyen-Âge. Sauf que, depuis les années 80, et en particulier sous l'impulsion d'un historien d'origine irlandaise qui travaille désormais à la retraite, mais qui a travaillé longtemps dans les universités américaines, Peter Brown, on a évoqué plutôt une antiquité tardive, c'est-à-dire une antiquité qui perdurait à la fin du 5e siècle et durant une partie du 6e siècle. Et donc, je vous propose d'évoquer avec vous justement cette question de quand prit fin l'Antiquité. Or, le livre dont j'ai cité quelques phrases tout à l'heure, le livre de Sylvain de Stéphane, La fin de l'Antiquité, propose une autre rupture, une autre coupure, 542. Mais il précise bien d'ailleurs que cette rupture doit être aussi relativisée et que l'histoire fonctionne rarement avec des ruptures totalement abruptes. Mais il émet l'hypothèse que la vraie rupture entre l'Antiquité tardive et ce que l'on appellera finalement plus tard le Haut Moyen-Âge, eh bien, se situe bien autour de cette date de 542. Pourquoi ? D'abord, il fait remarquer que, de manière institutionnelle, il n'y a plus de consul à Rome à partir de 531 et à Constantinople à partir de 541. Il estime donc là qu'il y a une rupture institutionnelle puisque les consuls sont sans doute apparus à Rome en 509 avant Jésus-Christ et ont perduré pendant environ un millénaire. À partir du moment où il n'y a plus ces consuls, eh bien, on quitte une structure institutionnelle que l'Antiquité romaine avait mise en place. Autre élément sur cette rupture de 542, c'est la question de la peste. Alors effectivement, là, nous touchons à un des drames, sans doute, de la société byzantine et même au-delà de l'Empire byzantin, c'est l'arrivée de la peste dans le delta du Nil, à la fin de l'année 541. On estime qu'elle est venue par des routes commerciales issues de Chine, qu'elle a ravagé la zone de la mer Rouge, le delta du Nil, et que par des bateaux, elle est arrivée à Constantinople au printemps 542. Cette peste a été extrêmement forte. Procope de Césarée, un chroniqueur, parle même, sans doute en exagérant, de 10 000 morts par jour. Les historiens estiment qu'elle a été un ravage et qu'elle a tué peut-être entre un quart, un tiers, dans certaines zones peut-être même au-delà du tiers, de la population de l'Empire byzantin. Mais elle a ravagé aussi l'Italie et d'autres parties de l'Europe qui n'étaient pas dans l'Empire byzantin. Et donc, cette rupture qu'a représentée la peste et peut-être effectivement aussi une rupture entre cette antiquité et le début du Moyen-Âge. D'autant plus que cette peste justinienne, puisqu'elle porte le nom de l'empereur qui régnait à l'époque, l'empereur Justinien, eh bien, est la dernière grande peste avant celle qui va ravager l'Europe au milieu du XIVe siècle. Et ensuite, la peste va devenir une tragique habitude pour les Européens jusqu'au début du XVIIIe. Mais les ravages de la peste justinienne a fait que, eh bien, on a peut-être changé d'époque et en tout cas marqué un affaiblissement de l'Empire byzantin. Parce que ensuite, après la peste, il y eut les famines. Parce qu'effectivement, moins de paysans, moins de récoltes, plus de famines. Autre rupture qui s'est déroulée dans l'Empire, c'est symboliquement la mort d'un très grand juriste, Tribonien, en juin 542. C'est le dernier des grands légistes impériaux. C'est-à-dire que Rome avait donné dans son legs un droit extrêmement important, le droit romain que l'on étudie encore dans les universités. Or, des légistes impériaux avaient reçu l'ordre de l'empereur Justinien, qui était arrivé au pouvoir en 527, de regrouper les lois précédentes, et il faisait finalement office, ce tribonien, de superviseur des chancelleries impériales. Et il a en particulier supervisé le digeste, c'est-à-dire un énorme livre publié en 533 et qui regroupe les lois romaines et la jurisprudence, auquel est venu se compléter le code justinien de 529. Avec sa mort, c'est la fin du temps des grands légistes, c'est la fin du grand droit romain. C'est peut-être effectivement une rupture. Et puis il y a une autre rupture, celle-ci, elle est religieuse.
Gladius Romae sunt Belisarius.
Effectivement, sur le plan religieux, il y a le rôle de Jean d'Éphèse. Jean d'Éphèse est un évêque chrétien, il porte le nom d'ailleurs de la ville dont il a été l'évêque, et qui a été, alors l'historien Sylvain de Stéphane l'appelle le premier inquisiteur, il avait été chargé effectivement d'éradiquer le paganisme en faisant des campagnes missionnaires dans de nombreuses provinces de l'Empire. Il faut remarquer que Jean d'Éphèse, d'ailleurs, n'est pas un catholique de stricte obédience. Il est monophysite. Monophysite, c'est-à-dire qu'il pense effectivement que la personne du Christ est avant tout divine. Et les monophysites ont eu tendance, finalement, à évacuer le côté humain du Christ. Et il faut dire qu'en Égypte et en Syrie, donc dans deux des très grandes provinces orientales de l'Empire byzantin, les monophysites étaient sans doute la majorité de la population. Mais l'empereur Justinien, qui se veut, comme il dit lui-même, l'allié du Christ, s'est donné pour objectif de rompre véritablement avec la tradition païenne. Certes, l'empereur byzantin était déjà un prince chrétien. Il ne faut pas oublier que c'est depuis 380 que le christianisme était devenu religion d'État dans le monde romain. Mais avec Justinien, on va accentuer la volonté d'éradiquer le paganisme. Il avait fait fermer l'université d'Athènes en 529, estimant qu'elle enseignait une philosophie plus païenne que chrétienne. Et Jean d'Éphèse avait décidé et a pratiqué l'éradication en détruisant des temples, des forêts sacrées, etc. Donc là, il y a une vraie rupture avec la tradition polythéiste du monde romain. Et enfin, vraie rupture aussi, sans doute, avec la fin du rêve impérial de Justinien. Justinien avait souhaité réunifier le monde méditerranéen sous l'égide de l'empereur byzantin, de l'empereur romain d'Orient. Il avait pris le royaume des Vandales en 534, c'est-à-dire l'actuelle Tunisie et une partie de l'Algérie. Il avait réussi à mettre le pied en 552 en Espagne. Et il s'était également lancé dans la reconquête de l'Italie, occupée par les Ostrogoths. Si, dans un premier temps, son général Bélisaire avait obtenu des succès, à partir de mai 542, le roi ostrogoth Totila avait lancé de puissantes contre-offensives et finalement, la guerre en Italie s'était enlisée. Et par là même, le rêve impérial de Justinien s'était dissipé. D'autant plus qu'à l'Est, les Perses n'avaient quasiment jamais cessé de mener des guerres contre l'Empire byzantin malgré la paix éternelle de 529. Mais le mot éternel est en politique à utiliser avec beaucoup de modestie. Peut-être effectivement, comme le dit Sylvain de Stéphane, que c'est aux alentours de 542 que l'on a basculé dans un autre monde.